Avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donald Trump réaffirme sa tolérance zéro aux frontières américaines pour ne pas laisser entrer de migrants illégalement, quitte à les séparer de leurs enfants enfermés dans des centres. Notre correspondant aux États-Unis est justement près de ces hangars. Nous le rejoindrons.
Une nouvelle porte qui claque aux Nations Unies est toujours la même, celle des États-Unis. Cette fois, il quitte le Conseil des droits de l'homme. Pourquoi ? Marie-Pierre Véraud nous éclairera.
Dans cette édition encore, nous entendrons les représentants syndicaux à la SNCF. Fini la grève unitaire, d'autres types d'actions sont envisagées.
Et puis la croissance va ralentir cette année car les Français achètent moins. C'est un peu schématique. Jean-Marc Chardon nous expliquera pourquoi.
Après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Seitz nous expliquera ce que va changer le futur redécoupage électoral. Un indice, vous verrez encore moins votre député. C'est une image rarissime au Capitole aux États-Unis, celle d'un président interpellé, pris à partie dans les couloirs. C'était cette nuit, après une rencontre autour de la politique américaine sur l'immigration, un élu démocrate l'interpelle.
Vous séparez les enfants, monsieur le président. Vous n'avez pas d'enfants ?
Sans lui répondre, le président Donald Trump salue les caméras avant de s'éloigner, faisant fi des critiques des démocrates et d'une partie des républicains. La tête haute face au déluge de critiques contre sa politique de tolérance zéro aux frontières. Le Monde apprenait il y a quelques jours que plus de 2300 enfants immigrés en un mois ont été séparés de leur famille à la frontière américaine. Alors, que se passe-t-il aux frontières ? Nous retrouvons notre correspondant en Outre-Atlantique, Grégory Phillips, bonjour.
Bonjour Clara.
Vous êtes au Texas, à la frontière mexicaine, à l'épicentre de cette crise. C'est dans le sud de cet État que se trouvent la plupart de ces enfants placés en centre de rétention.
En fait, ici, dans le sud du Texas, il y a deux grands centres qui, pour l'instant, accueillent ces enfants et ces familles. Les deux sont à la frontière avec le Mexique, collés au Rio Grande. Le plus grand se trouve à McAllen, 70 000 mètres carrés. C'est là qu'on a vu ces familles et ces adolescents placés dans des espaces grillagés, des cages. L'autre est à Brownsville. C'est un ancien magasin Walmart transformé en centre de rétention. Selon les gardes frontières, environ 1500 enfants ont été retenus là-bas depuis le début du mois de mai. 70 l'ont été après avoir été séparés de leurs parents. L'agence américaine AP affirme aussi que dans le sud du Texas, les autorités ont maintenant ouvert 3 centres susceptibles d'accueillir des bébés, des nourrissons. Un quatrième est en projet à Houston. Cette vallée du Rio Grande, c'est la porte d'entrée de très nombreux Mexicains, mais aussi de migrants venus du Honduras ou d'autres pays d'Amérique centrale. Quand ils parviennent à passer notamment ce fleuve, ils sont pris en charge par des églises. Les gardes frontières, eux, sont débordés, particulièrement depuis qu'ils pratiquent la tolérance zéro prônée par l'administration. Hier soir, Donald Trump a une nouvelle fois justifié sa politique. On ne veut pas que les gens se déversent sur notre pays. Ceux qui entrent ici illégalement seront arrêtés. Et le président américain explique ainsi la séparation des familles. Quand les parents sont envoyés en prison, alors il faut bien les séparer de leurs enfants.
Merci Grégory Phillips, envoyé spécial au Texas pour France Culture. Une pratique inadmissible, dit déjà l'ONU, cruelle et inhumaine aux yeux de Mexique. Également critiquée cette pratique par d'influents dirigeants religieux et de grandes entreprises américaines, telles que Caterpillar, Boeing ou encore General Motors. Une pratique que certains qualifient de contraire aux droits de l'homme. Étrange calendrier, en tout cas, pour l'administration Trump pour annoncer le retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'était attendu. Les critiques du président depuis son arrivée au pouvoir étaient nombreuses. Mais l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies l'a confirmé tard hier soir. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Clara.
Nikki Haley a qualifié l'institution de cloaque de parti pris politique. Une organisation hypocrite, dit-elle, servant ses propres intérêts.
Et appliquant une politique hostile à l'État hébreu, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se focalise, estime l'administration Trump, de manière excessive et entretient une hostilité sans fin à l'égard d'Israël. Nikki Haley a beau jeu de dénoncer une position partisane défavorable à Israël. L'État hébreu est en effet le seul à être en permanence à l'agenda de chacune de ses sessions. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies dénonce aussi la composition du Conseil qui compte dans ses rangs le Venezuela, la Chine, Cuba ou encore la République démocratique du Congo où des charniers ont récemment été été mise au jour, mais elle se garde bien de mentionner l'Arabie Saoudite, par exemple, alliée des États-Unis. Les États-Unis souhaitaient réformer le Conseil, notamment en faciliter l'éviction d'États qui ne respectent pas les droits de l'homme. Ils accusent la Russie, la Chine, Cuba et l'Égypte de s'être opposés à leur volonté. Les critiques de cette décision américaine font valoir que le retrait ne fera au contraire qu'accentuer les faiblesses souvent dénoncées du Conseil des droits de l'homme. Mais Donald Trump n'en a cure. Cette décision n'est d'ailleurs pas, vous le disiez, une surprise, tant il aborde le multilatéralisme et a déjà coupé les financements de plusieurs agences onusiennes, notamment ceux de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dont la presse israélienne nous apprend ce matin qu'elle pourrait suspendre bientôt son aide aux Palestiniens, faute de fonds après ce retrait américain. Les États-Unis de George Bush, eux, avaient aussi déjà refusé de soutenir le Conseil lors de sa création en 2006. À l'époque, d'ailleurs, l'ambassadeur américain à l'ONU n'était autre qu'un certain John Bolton, qui est aujourd'hui conseiller à la sécurité nationale du président.
Merci Marie-Pierre Vérot du service international de France Culture. Créer des camps de transit aux portes de l'Union européenne pour les migrants le temps que leur dossier soit instruit, voici la solution officieuse évoquée par certains membres, pays membres de l'Union, pour contenir l'arrivée de réfugiés. Ces camps pourraient être implantés en Afrique, surtout, sorte de plateforme régionale chargée de gérer les réfugiés. Hier, par ailleurs, Angela Merkel et Emmanuel Macron n'ont pas fait part d'éventuels consensus pour réécrire le règlement de Dublin. Règlement qui fait, rappelons-le, porter la seule charge de l'accueil sur les pays de première entrée, la seule charge des réfugiés. En revanche, les deux dirigeants réunis au nord de Berlin hier se sont mis d'accord sur une feuille de route commune pour réformer la zone euro, pour lui créer un budget notamment. C'est une réelle avancée car l'Allemagne n'en avait jamais voulu jusqu'ici, Cyril Sauvageau.
C'est une petite victoire pour Emmanuel Macron, qui a donc réussi à convertir Angela Merkel à sa proposition phare pour la zone euro. L'idée d'un budget commun a longtemps constitué une ligne rouge pour les Allemands. C'est donc un geste significatif, une réponse tardive mais relativement concrète au projet de réforme formulé par le chef de l'État depuis son discours de la Sorbonne. À l'avenir, la zone euro disposera donc de son budget propre pour des investissements communs et pour une meilleure convergence. Mais pour l'instant, seul le cadre général est fixé, tout reste à négocier. D'abord, quelle enveloppe annuelle ? Paris et Berlin n'ont pas la même ambition. Emmanuel Macron imagine plusieurs centaines de milliards d'euros. La chancelière est plus prudente. L'accord franco-allemand n'évoque aucun chiffre. Quel droit de regard ? Ensuite, auront les parlements nationaux ? Enfin, comment ce budget va-t-il s'articuler avec les dispositifs existants, notamment le mécanisme européen de stabilité qui doit être réformé ? Reste aussi à convaincre les 17 autres États membres pour parvenir à la mise en place de ce budget commun à partir de 2021.
Les États membres qui tergiversent, qui tentent de se réformer, quand le Royaume-Uni tente de son côté de sortir proprement de l'Union européenne, 2 ans après le référendum sur le Brexit. Vote crucial aujourd'hui des députés britanniques. Séance périlleuse pour Theresa May. La Première ministre veut éviter que le Parlement britannique n'ait un droit de veto sur l'accord final sur le Brexit.
8h08 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Après 36 jours de grève en pointillé, l'unité syndicale à la SNCF vole en éclats.
L'UNSA a décidé de sortir du mouvement dans 8 jours, le 28 juin prochain. La CFDT pourrait faire pareil, alors que la CGT et Sudrail prévoient de leur côté des actions cet été. État des lieux de cette dispersion enclenchée avec Hakim Kasmi.
Pour l'UNSA, pas question de poursuivre la grève cet été. Roger Dillemseger, son secrétaire général, entend surtout peser sur la négociation de la future convention collective, mais n'exclut pas des actions ponctuelles à la rentrée.
Nous, on prend nos responsabilités, on annonce clairement qu'on sera dans l'action jusqu'au 28 et on ne sera pas en grève début juillet. Ce qu'on dit également, c'est qu'on va continuer à peser sur les négociations à venir. Les négociations à venir qui vont se dérouler maintenant sur la part conventionnelle dans le cadre des travaux de la convention collective au niveau de l'UTP. Nous, on pèsera sur cette négociation. À date, on attend le calendrier de l'UTP qui aujourd'hui n'est pas fixé.
Quant à la CGT, elle appelle à la poursuite de la grève. Au-delà du 28 juin, les 6 et 7 juillet, week-end de grand départ en vacances, Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminots.
Le 6 et 7 est toujours d'actualité. Nous considérons qu'il faut préparer d'ores et déjà les dates, et notamment parce que la loi sur le service minimum nous impose de déclarer une grève au moins 18 jours à l'avance. Donc nous ne pouvons pas attendre le 28, nous proposerons des dates et les organisations organisations syndicales qui souhaiteront s'y joindre, s'y joindront.
Alors peut-être que la CFDT pourrait s'y joindre. Elle préfère d'abord attendre un geste fort de la SNCF et du patronat, l'UTP, dans les prochains jours, avant le 28 juin, comme l'explique Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots.
La SNCF a son niveau de responsabilité. Et elle doit, dans ce cadre-là, s'engager, dans le cadre de son agenda social, sur des mesures précises, comme on a réussi à le faire et l'obtenir avec l'UTP.
Enfin, Sud n'exclut pas de mener des actions ponctuelles surprises à la rentrée, car la grève a fortement pesé sur les salaires. Rappelons que les cheminots grévistes ont perdu entre un salaire et un salaire et demi.
La grève à la SNCF, qui n'a quasiment pas eu d'effet sur la croissance, c'est en tout cas l'INSEE qui le dit. L'Institut chiffre à moins de 0,1% du PIB l'effet négatif du mouvement des cheminots. Et celui d'Air France, c'est donc peu. Mais la croissance française va tout de même ralentir cette année. 1,8% en 2018 d'après les prévisions de l'INSEE contre 2,3% l'année passée. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Et bonjour Clara.
Jean-Marc, la faute notamment à la consommation des ménages qui ferait du surplace.
Et oui, c'est du côté de la consommation, des dépenses des ménages que ça tire en sens contraire, que ça donne l'impression de brider quelque peu la croissance. Alors ça s'est mis à caler en début d'année, après un rythme plutôt soutenu en 2017. Les ménages ont commencé à réduire leurs dépenses sur la plupart des postes de leur foyer, à commencer par le logement. Et tout laisse penser qu'ils vont faire attention cette année, même si leur salaire devrait progresser en moyenne de 1%, un peu moins que l'an dernier, ils risquent de voir l'inflation qui remonte absorber le bénéfice de cette augmentation salariale. Et tout risque de concourir en ce sens avec l'augmentation des prix du pétrole qui se répercute sur les carburants avec hausse de taxes, hausse sur le tabac, hausse de la CSG sur les retraités ayant pour effet d'amputer le pouvoir d'achat de 0,6% au premier trimestre d'après l'INSEE. Alors sans compter maintenant l'effet du gel des APL pointé par plusieurs associations dans le logement qui ne peut que jouer que comme un frein dans ce secteur. Alors tout cela ferait que la consommation n'excéderait guère 1% même si l'INSEE anticipe une reprise en fin d'année ou au second semestre, tout de même dans la foulée de mesures fiscales plus favorables, réduction de la taxe d'habitation, des cotisations salariales à l'automne notamment, de quoi stimuler peut-être le pouvoir d'achat, mais à la marge d'un demi-point sans doute, assez faiblement donc a priori.
Merci Jean-Marc Chardon. Dans 10 jours, la limitation de vitesse sur les routes départementales passera à 80 km/h, opération de communication lancée donc aujourd'hui par le gouvernement, alors que dans le même temps, une quinzaine de députés UDI Agir et les Républicains déposent au Conseil d'État un recours en annulation contre le dit décret. Explication du président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Il est aussi député de Seine-Saint-Denis.
C'est un recours en excès de pouvoir. L'excès de pouvoir, c'est en réalité caractérisé d'abord par le fait que cette mesure, elle est mal fondée. On n'a pas besoin de mettre toutes les routes à la même enseigne pour réduire la mortalité ou les accidents sur une route. Il y a possibilité, au contraire, de lutter contre l'insécurité routière en regardant au cas par cas les endroits où c'est dangereux. Dans les endroits où c'est dangereux, il faut descendre, peut-être même en dessous de 80 km/h. Partout ailleurs, c'est pas la peine de pourrir la vie des Français. Il y a des préfets, il y a des élus locaux. Laissons-les, eux, décider. Je pense qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, est parfaitement convaincu d'avoir raison, mais je pense qu'il a tort de voir, comment dirais-je, la lutte contre l'insécurité routière comme quelque chose qu'on va appliquer de façon générale, absolue et uniforme sur le territoire. Chaque route, chaque département, je dirais même chaque virage est différent. C'est là où on peut voir le nombre d'accidents qu'il y a et prendre des mesures sur les endroits les plus accidentogènes et pas enquiquiner les Français dans des endroits où en réalité il n'y a jamais d'accident. Ça sert à quoi ?
Jean-Christophe Lagarde au micro de Stéphane Robert. Les éoliennes vont-elles continuer de border le littoral français ? Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en Bretagne, accompagné de Nicolas Hulot, et il se fera présenter le projet de parc éolien offshore de Saint-Brieuc. 62 éoliennes d'ici 2022. Un projet, comme 5 autres en France, qui pourrait pourtant être menacé par ce même gouvernement. Véronique Robérotte.
Le feu vert a été donné la semaine dernière en commission par les députés. Un amendement pourrait conduire prochainement ni plus ni moins qu'à une annulation des 6 premiers projets de parcs éoliens en mer français. Une possibilité en cas d'échec des négociations en cours entre les porteurs de projets et l'État. Le gouvernement entend renégocier à la baisse le prix de rachat de l'électricité produite par les éoliennes Pour le parc éolien en baie de Saint-Brieuc, par exemple, le coût fixé par mégawattheure se situait, lors de l'appel d'offres il y a 6 ans, entre 180 et 230 euros. Une rémunération trop élevée qui ne correspond plus au prix actuel de l'éolien en mer, estime le gouvernement. Les prix ont fortement chuté en Europe, avoisinant aujourd'hui au Royaume-Uni ou en Allemagne autour de 60 euros le mégawattheure. L'écart est énorme. L'État est bien déterminé à réduire le coût de soutien public des projets éoliens français, tout en assurant vouloir conforter la filière de l'éolien offshore. Mais l'amendement déposé par l'État va plus loin. Dans l'hypothèse où la renégociation en cours des conditions tarifaires attribuées donc en 2012 n'aboutirait pas, il serait alors envisagé d'annuler ces projets et de relancer de nouveaux appels d'offres. Autrement dit, à Saint-Brieuc, comme sur les 5 autres sites retenus, la France repartirait de zéro dans l'éolien offshore, inexistant à ce jour sur les côtes françaises.
Les éoliennes, elles pourraient être presque à l'arrêt aujourd'hui, faute de vent autour de la France. Les prévisions météo du jour sont assez simples. Un grand soleil sur tout le pays, peu de vent donc. Après la levée des nuages près de la Manche ce matin, les températures, elles sont déjà très chaudes. 21 degrés à Paris ce matin, 23 à Rennes, 25 à Strasbourg et Lyon. Et déjà 28 dans la matinée à Bordeaux, Montpellier et sur la Corse.